Bon, alors, on a deux questions ici aujourd'hui. On va essayer de les faire un mix des deux. Question de Jonathan qui dit: comment vivre dans la vérité alors qu'on côtoie le monde du mensonge? Ceux qui n'ont pas la chance d'être au Beth Midrash toute la journée vivent avec soit des non-religieux, soit des non-juifs, et ils ont un autre mode de vie, de pensée. On est côtoyé aux publicités, on est agressé par un monde différent de nos convictions. Comment survivre? Deuxième question, celle de David. Comment un juif ne tombe-t-il pas dans la routine, vu qu'il a une vie extrêmement réglée? Shachrit, Mincha, Arvit, Shabbat, Moussaf, les fêtes qui reviennent, etc. Donc, comment pas tomber dans une routine? On va commencer par répondre à la question de David, et après on va bifurquer le Nader sur la réponse à Jonathan. Il y a un verset super inconnu dans Michelet, dans les Proverbes, qui dit: Gil yagil tzadik, Gil yagil avi tzadik, ve yolad chacham yismach bo. Gil yagil, c'est dans Michelet, Proverbe. Gil yagil, joie, de joie se réjouira, avi tzadik, le père d'un tzadik. Yolad Chacham, celui qui mettra au monde un sage, Yismach Bo, sera heureux de lui. Les deux personnages, le tzaddik et le Chacham, leurs parents sont contents, vont se réjouir d'avoir un enfant pareil. Mais le terme utilisé pour définir la joie chez le tzaddik, elle est Gil. Gil, Gila. Gil, Yagil, se réjouira. Alors que celui qui est utilisé pour le chacham, le sage, c'est Ismach bo simcha, la joie. Gila, c'est la joie. Simcha, c'est la joie. Il existe 10 termes en hébreu pour dire la joie. Parce qu'on est des gens joyeux. En français, il y a la joie. À part ça,
Heureux.
le bonheur.
La fête.
Voilà.
Il y aura pas de joie.
Voilà. 2 termes. Au Hachem, en hébreu, il y a 10 termes, mais chacun avec sa nuance. Je vous en cite quelques-uns, comme ça, de Gila, Rina, Ditsa, Chetva, Simcha, Sason, Elson, Aliza.
Réhout.
Réhout, non, Réhout, c'est l'amitié.
Et c'est à chaque fois des différents.
Et chaque fois, il est différent. Alors, quelles sont les caractéristiques de la Gila et de la Simcha? Gila, ça vient de la racine Gal. Gal, c'est Galgal. C'est une roue. Cyclique. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui pratique la Torah comme il se doit, de A à Z. Ce n'est pas forcément un grand chacham. Ce n'est pas forcément un grand sage. Il doit être un peu sage. Parce que s'il est ignare, il ne pourra jamais être tzaddik. Il ne sait pas ce qui est interdit, ce qui est permis. Donc forcément, il fera des erreurs. Mais ce n'est pas forcément un grand, grand, grand Torah. Il sait ce qui est interdit, ce qui est permis. Par contre, il ne dévie jamais. Il est super, super, toujours. Le mot tzaddik vient du mot tzad. Tzad signifie côté. Il y a toujours deux choix dans nos vies, le bon côté et le mauvais côté. Il choisit le bon côté toujours. La tzaddik, la lettre tzaddik, tzaddik, d'accord? Comment elle s'écrit? Vous faites dans votre sens à vous, c'est, il y a une base, après ça monte comme ça, et il y a un yud. Ça monte comme ça, une base, ça monte, il y a une petite tête, et un yud. C'est le tzaddik qui est penché pour supporter le yud du nom de Dieu, yud ke vav ke. Il en est fort. C'est-à-dire que la lettre tzaddik toujours exprime la notion de pression, il est en pression. Juste parce que c'est sympa, j'ai une conférence entière là-dessus, quel langage parle Dieu? C'est sur internet, le site leaba.fr que je recommande. Deux cours sur quel langage Dieu parle-t-il? Très très beau. Et là-bas, on explique quelques sens des lettres. Alors, c'est intéressant de voir que ça dit que j'expliquais maintenant, c'est la pression. P, c'est la bouche. Bouche, c'est une ouverture, c'est une chose qui sert à faire sortir. À faire sortir ce que, toujours la bouche, elle sert à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la lettre P exprime l'expression, la sortie de l'intérieur à l'extérieur. Maintenant, si je vous mets maintenant P tzadik, ça veut dire une sortie d'intérieur à extérieur avec pression. Donc, si je vous écris maintenant P tzadik tzadik, quand il y a deux lettres répétées, c'est pour accentuer. Une sortie d'intérieur à extérieur avec beaucoup, beaucoup de pression. C'est quoi en hébreu? Patsats. Petsatsa, c'est quoi? Une bombe. Une explosion. C'est pas un terme qui est inventé aujourd'hui dans Jérémie. Dans Jérémie, on parle de. C'est un verset où il parle de 116. Patsat, patsatsa, ça a été emprunté. L'hébreu moderne a emprunté de l'hébreu biblique. Signifie explosion. C'est intéressant de voir comme tous les mots en hébreu ne sont pas comme les autres langues, des mots qui sont fixés par une convention. Ça, on appelle comment ça aujourd'hui? Un MP3. Il n'y a aucune, on appelle ça dans le jargon des linguistes, il n'y a aucune relation intrinsèque entre le signifiant et le signifié. Le signifié, c'est l'objet. Le signifiant, c'est l'appellation que j'en donne. MP3 et ça, il n'y a aucune... D'accord? Je vais qu'on appelle ça maintenant cravate. Je vais appeler aussi cocorico. L'essentiel, c'est que nous, on se comprenne. Donc on fait une convention, qu'on appelle ça cravate. Si on fait une convention entre nous, maintenant, on appelle ça cocorico, alors ça sera un cocorico. Il n'y a aucune importance. Quel signifiant, donc quel terme j'utilise maintenant pour signifier le signifié qui est l'objet?
Il y a des mots.
Pardon?
Il y a des mots.
Quelques-uns, par exemple.
Hein?
Miolet, par exemple. Cocorico, ça ressemble à cocorico. Il y a. Mais c'est très, très peu. Très, très peu.
Les onomatopées.
Voilà, exactement. Voilà, les onomatopées. Les onomatopées. Voilà. Par contre, en hébreu, tous les mots. Étant donné que nous considérons qu'Hachem parle, Hachem, quand il parle au prophète, il parle en hébreu. Hachem n'a pas fait une convention avec ses copains, d'accord? On va maintenant appeler comme ça. Si Hachem appelle un nom, appelle un objet, un signifié, par un certain signifiant, ça veut dire que c'est le nom de cet objet. Dans le nom se trouve l'essence même de l'objet.
La fonction, en fait.
Pardon?
C'est la fonction qu'il utilise. À quoi il doit servir?
L'essence de l'objet, c'est sa fonction, ça peut être autre chose, d'accord?
Et pas tous les mots sont dans la Torah?
Pardon?
Pas tous les mots sont dans la Torah?
Tous les mots sont dans la Bible. Les autres mots, ce ne sont pas des mots qui existent. Il y a des mots aujourd'hui modernes, téléphone ou télévisia, d'accord?
Bon. J'avais entendu, non? Hein? Fait, non, il n'est pas dans un Tanakh, ça fait? C'est pas un mot qui n'existe pas, si on a été. Les Raham, ils l'ont rajouté, mais.
Il y a certains mots qui viennent de l'araméen, hein, c'est vrai, mais je ne sais pas si ça fait, il faudrait voir si ce qui est.
Ça fait.
Non, j'aurais réfléchi maintenant si ça arrive quelque part dans la Bible. Il faudrait vérifier, je ne sais pas si c'est pas trop compliqué. En tout cas, on considère comme la langue sainte, d'accord, l'hébreu biblique qui est la base de tout hébreu, d'accord, qui contient les mots par lesquels Hachem parle. En tout cas, nous parle. Il se peut qu'il y a des mots que Hachem utilise, c'est ça qu'on appelle les noms saints, d'accord? Tu as des noms d'anges, des noms de choses qui n'ont pas de sens pour nous, mais qui ont une certaine réalité, parce que les lettres, chacune... Bon, je suis en train de dévier maintenant sur un autre sujet. Il y a un cours là-dessus, la langue sainte, ok? Les lettres ont un sens, les mots ont un sens, qui n'est pas le fruit d'une convention. On revient maintenant à Tzadik. Tzadik, donc, c'est celui qui se fait pression. Donc, il va sans cesse agir après la Torah, et là, forcément, il arrive dans une routine. Parce que c'est cyclique. Il y a le matin, il faut se lever au milieu de la nuit pour étudier la Torah. Il y a Birkot HaShachar, Birkat HaTorah, Tikkun Hatzot, Tikkun Rachel, Tikkun Lea. Il étudie, après il va au Migvé, il prie au net, il met deux tefillin à la fois, il prie avec Havana, les mêmes mots chaque jour. C'est super, Chok l'Israël, etc. Il fait Shabbat, les fêtes, Yom Kippour, ça revient sur soi sans cesse. Celui qui mettra au monde un tzaddik, il verra de la gila. Gila, il aura une joie, mais qui est cyclique. Galgal en hébreu, galgal, c'est une roue. Par contre, celui qui met au monde un sage, il va étudier la Torah. Il est marqué « En bet midrash blichidush ». Il n'y a pas de bet midrash, de lieu d'étude, sans innovation. Ce n'est pas possible. Chaque juif a en lui une partie de la Torah que seul lui peut dévoiler. Seul lui peut dévoiler. Donc forcément, quand il va étudier, il y a des nouvelles choses qui vont arriver qui n'ont jamais été dites depuis que le monde existe. S'il étudie, s'il se rate, parce qu'il se rate, et bien il a raté sa vie, d'accord? Il ne s'est pas réalisé. Mais forcément, dans l'étude de Torah, il y a du chidouche, il y a de l'innovation. Donc, Pour répondre à la question, oui, si quelqu'un est sadique, il aura une certaine routine, et encore on peut en parler. Mais s'il est sage, comme demande la Torah qui étudie la Torah, ça c'est clair qu'il est, qu'il est un des êtres humains au monde qui a le plus d'innovation quotidienne. Qui d'autre peut avoir autant d'innovation que quelqu'un qui étudie la Torah? Qui? Presque impossible. Je ne pense pas qu'il y ait un métier plus que cela.
Mais tout a déjà été su, donc il n'y a rien de nouveau.
Je te dis qu'il n'y a absolument rien qui est... Non, il est absolument impossible qu'une chose qui t'appartienne à toi ait été su auparavant. Tu as ta partie de Torah à toi, que toi seul peux amener au monde.
Au bout d'un certain moment.
Hein?
Au bout d'un certain moment. À notre niveau...
Ok, vas-y.
Ça a été dit et redit. C'est
au bout de alors. Très bien, au bout d'un moment. Mais en attendant, quand tu étudies une nouvelle page, c'est une chose qui est nouvelle pour toi. Il n'y a pas de routine. C'est nouveau.
C'est de l'étude, quoi. Je refais de l'étude encore.
Mais c'est une chose nouvelle que tu apprends tous les jours. Et même quand tu fais une revision, tu comprends mieux. Tu as tout coup des chidouchines, des innovations, des compréhensions plus profondes. C'est impossible que quelqu'un étudie, il y a pas, chaque jour, chaque heure, il n'y a pas de nouvelles choses qui arrivent. Ou des choses qui sont déjà écrites et qu'il apprend pour la première fois. Ou quand il revoit, ça affine et ça précise et ça innove. Il a une compréhension plus profonde des choses. Donc quelqu'un qui vit dans la Torah, dans l'étude de la Torah, il fait partie, je ne pense pas qu'il est, je réfléchis, quelqu'un, peut-être un artiste, il compose des mots, alors après il y a une composition, tout ça, mais bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des notes, c'est très joli la musique. Le gars de Vina a dit que s'il n'y avait pas eu la Torah, il aurait étudié la musique. C'est la chose, il aurait étudié la musique, c'est la chose la plus haute qu'il y a, la plus spirituelle qu'il y a après la Torah. Enfin, après la Torah en bas, d'accord? La chose plus haute, c'est quand même la Torah, parce que la Torah, à part le fait qu'elle est spirituelle, elle est la vérité. Elle est mon sens, elle est le sens de moi-même, elle me met en relation avec Dieu, elle me sanctifie. C'est une chose extraordinaire. Donc il est impossible d'arriver à un ennui, à une routine. Impossible, impossible. Ça c'est pour celui qui lit la Torah. Attends, le tzaddik, on lui demande pas simplement de faire. Parmi les mitzvot qu'il a, il a par exemple prié. C'est certain que la prière, dans la journée du juif, c'est une chose qui prend un certain morceau de la journée. Au moins, pour quelqu'un qui prie bien, ça prend bien 1h30 à 2h par jour. La prière est un moment de communion, d'union, d'amour, de prière dans le sens de demande, union avec Hachem. Avec Hachem. J'ai déjà dit que la traduction du mot prière en araméen équivaut au mot amour. Aimer, rachim. Le mot aimer en araméen c'est rachim, il aime. Et la prière, elle appelait Rahamim. C'est la même racine exactement.
En araméen, c'est Rahamim.
Ouais. Dieu t'appelait Rahmana. Et la mitzvah numéro un que nous avons après savoir que Dieu existe, c'est l'aimer. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Sache, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. So what? Et alors, va'afta. Tu l'aimeras de tout ton corps, tout ton âme, tout ton pouvoir. C'est une vie extrêmement riche, riche. Mais il y a un danger, comme dans tout, il y a un danger de l'habitude. Le Chazon Ish a écrit que l'habitude, c'est la chose qui casse le plus. Ça casse tout. Quelqu'un qui se marie, il est amoureux de sa femme. Il a une femme top, top, de tous les niveaux, top, top, top. Il a de quoi être amoureux. S'il ne va pas cultiver l'amour pour sa femme, tout ce que je dis, bien sûr, réciproque, elle a un mari top, 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 d'accord, une grande barbe, des grandes perrottes, un bon étudiant Torah, voilà, un grand sadique. Si elle va pas, ils vont pas cultiver leur amour ensemble, et ben, au bout d'un moment, il y a l'habitude et tout ça, et il n'y a plus rien. Il y a envie techniquement. On peut vivre aussi. Dieu nous donne maintenant l'occasion de vivre la vie la plus intense qu'il puisse y avoir. Branche-toi avec moi. Moi, je suis infini. Infini de connaissances, infini d'éternité, infini d'intensité, infini de plaisir, infini de tout. Donc, le problème, il est chez nous. Certainement pas maintenant. La Torah, comme ta question était posée, le juif, il a une vie routinière. Au contraire, je ne sais pas comment les non-pratiquants, ils vivent. Qu'est-ce qu'ils ont? Le matin, ils se lèvent, ils réveillent la radio, ils écoutent les nouvelles, ils se brossent les dents, d'accord? Après, ils vont au boulot, ils reviennent, mettre au boulot dodo, à la télévision, complètement annihilés, pardon?
Les nouvelles, elles sont différentes tous les jours, le travail est différent tous les jours.
Différent? Moi, je mange. Le repas, on mange le même repas, ça, c'est pas un problème. Les nouvelles, on peut savoir ce qui se passe dans le monde aussi, on a des nouvelles beaucoup plus intéressantes, on étudie HM plutôt que les bêtises qui nous font écouter toute la journée. Tu sais à propos des nouvelles ce que je dis? Les gens nous disent, vous regardez la télévision? Non. La radio, j'écoute pas. Non. Alors comment vous faites? Je suis au courant de tout. Comment? Bon, on va voir vous, par exemple. Vous écoutez la radio? Oui, bien sûr. Minimum, minimum, je te le fais le plus light, hein, le minimum qu'un non-pratiquant moyen écoute la radio et les informations par jour, c'est une demi-heure. Le journal télévisé, le Mifza, comment c'est le machin, un truc. Minimum une demi-heure. Vu ce journal, une demi-heure. Au courant de tout, hein. Au courant de tout. Ok, par semaine, si les Shomer Shabbat, 3 heures. T'écoutes, toi, t'écoutes un peu les nouvelles?
Non, j'écoute ce qui se dit, mais moi, de moi-même...
Qui écoute les nouvelles ici? Toi, vas-y. Tu peux me raconter les nouvelles de la semaine passée? Tu peux me raconter les nouvelles de la semaine passée? La semaine d'avant. La semaine d'avant. Combien de temps tu tiens?
Pas une demi-heure.
Pas une demi-heure, non. Combien tu tiens?
3 minutes.
3 minutes.
C'est déjà beaucoup, 3 minutes.
Même pas. Quelqu'un qui écoute les nouvelles, tous les jours une demi-heure, à la fin de la semaine, tu te demandes, ok, fais-moi un petit résumé, rapide. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il tient même pas 3 minutes. Allez, si c'est un super... Il est branché surtout, 5 minutes. 5 minutes. 3 heures, t'as écouté. Donc, t'as 2h55 qui sont partis en rien. 2h55 de sa vie, messieurs. J'en profite pour parler d'une chose importante. Chaque seconde qui passe ne reviendra plus jamais. Il n'y a rien qui vaut plus que la vie. La halakha permet de transgresser Shabbat, Yom Kippour, de faire tous les interdits de la Torah, presque tous, pour sauver une personne qui va mourir. Il a la tête, la Gemara dit, il a écrasé le type. Il a la tête qui a fait plaf, d'accord ? Mais il est encore vivant. Je peux rallonger, il va mourir, c'est clair. Je peux rallonger sa vie de 10 secondes. 10 secondes ! On est Mechalel Shabbat. On est Mechalel, on transgresse Yom Kippour, on transgresse Shabbat, on lui fait manger tout ce qu'il faut, du pain à Pessah, tout, pour 10 secondes de plus de vie. Tellement c'est important. Celui qui touche un homme qui est en train d'agoniser, il est appelé assassin. Parce que la personne qui agonise, elle est extrêmement faible. Razal dit, ça ressemble à une bougie en train de s'éteindre. Tu fais un petit mouvement à côté, tu la touches, elle s'éteint tout de suite. Et alors? Ok, j'ai aidé, j'ai tenu la main. On ne touche pas. Parce que si jamais il est mort 2 secondes avant, 1 seconde avant le moment où il aurait dû mourir, 1 seconde, t'as tué. 1 seconde, c'est une valeur. Pourquoi c'est une valeur énorme? C'est très simple. Parce que on est dans ce monde-là en tant que passage pour arriver à une autre réalité qui est celle qui est une réalité qui est éternelle. Et toute cette réalité éternelle dépend de mon passage ici sur Terre. Donc chaque seconde maintenant a un impact d'éternité. Aucun être humain ne peut imaginer ce que c'est. C'est pas que chaque seconde vaut des millions de milliards. C'est beaucoup trop diminué. C'est inimaginable, c'est infini, infini. Et c'est pas récupérable, c'est fini, terminé. Il y a la notion de réincarnation, mais c'est pas nous qui nous réincarnons. C'est les parties d'âme qu'on n'a pas réussi à réaliser qui vont chez quelqu'un d'autre. Alors, c'est la même âme qui passe, mais c'est pas nous. Nous, en tant que nous, c'est moi avec ce que j'ai, là, ce que j'ai fait. Ça ne revient plus jamais. Comment peut-on perdre sa vie? Comment peut-on perdre une seconde de sa vie? Il n'y a pas de plus grande valeur que... Okay. Et ça passe... Excuse-moi. Et ça passe si vite. Je l'ai déjà dit, c'est par le Chazal. La vie, elle passe comme l'ombre, comme une ombre. Le Chazal dit pas comme l'ombre d'un arbre, comme l'ombre d'un volatile. T'as déjà vu un volatile, un corbeau qui passe? Slip! L'ombre, comme ça, elle passe vite. Demande où... Hein? Demande aux gens qui sont à un certain âge, ils diront comme ça passe la vie. Et par rapport à l'éternité, c'est rien, de rien, de rien, de rien. Et nous allons plus loin, dit quel volatile? Ils disent comme l'ombre de l'aile d'une abeille. T'as déjà vu ça?
On a peur quand vous parlez de.
Aie peur! Aie peur! Bouge-toi! Et quelqu'un maintenant, il écoute les nouvelles? Il apprend maintenant qu'en Corée du Sud, un homme a coupé les doigts de sa fille.
Ça fait du rire.
Ouais, c'est fantastique.
Je me rends compte de la valeur des doigts.
Ouais, ouais. Je ne dis pas que ça vaut rien. Je dis que, comparativement à la Torah, ça vaut rien. Tu comprends? C'est tout.
Savoir ce qui se passe en Israël, c'est important quand même.
Je dis pas qu'il faut pas savoir. Je dis que ce que tout le monde sait, je sais aussi. Parce que les gens parlent. Moi, j'ai un filtre. On compte sur les crétins qui vont perdre leur vie, qui écoutent les nouvelles et comprennent aussi que les boîtes d'information, elles ont intérêt Ils ont besoin d'écoute, elles ont besoin de pub, elles ont besoin d'argent. Donc ils trouvent des choses intéressantes à raconter, sans cesse. Tout ce qu'on peut voir d'intéressant, rien que les gens écoutent. J'avais un copain journaliste, il m'a dit qu'un chien a mordu une personne, c'est pas intéressant, mais qu'une personne a mordu un chien, c'est intéressant. Alors on cherche qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à raconter, rien que pour donner aux gens la lecture pour la pub, pour l'argent. On nous abétit, on nous aliène, on nous rend idiots. Viens, les nouvelles, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Tu sauras très bien ce qui se passe. Ok, une heure après les autres. Big deal. C'est pas la fin des haricots. T'as gagné 2h55 par semaine, ça je te l'ai fait. Cool, parce que celui qui écoute les nouvelles 2 heures par jour, alors tu le fais 10 heures par semaine, 12 heures par semaine. À l'année et à la vie, 2 heures par jour, ça fait combien de sa vie? La vie active, il dort 8 heures, il nous reste maintenant 16, 12.
700 heures par an.
2 de 16, comment ça fait? Pourcentage 1 huitième. 1 huitième de sa vie à la poubelle. À la fin de sa vie. Allez, raconte-moi une nouvelle maintenant. Hein? Pendant 1/16 de vie, le type l'a vécu 80 ans, donc 10 ans de sa vie, non-stop, il écoute les nouvelles. Allez, et voilà ma barre. Bon, t'as quelque chose de bien à nous raconter. Ah ouais, alors les doigts des enfants de Corée, les petits doigts des enfants de... Les deux. Ah.
On les écoute pas forcément pour connaître, pour savoir, pour faire une petite afsaka, pour...
Voilà, exactement, pour pas de son temps.
Pour mieux étudier après, justement.
Pour rien.
Je suis parti pour 2 heures de suite.
Pour rien. Non, ça ne vaut pas. Ce que tu me dis, ça vaut, mais ça vaut pas la peine. C'est effectivement, oui. Quelqu'un maintenant, c'est marqué Bitula ou Kiyuma. Quelqu'un qui arrête d'étudier un certain temps pour s'aérer, pour pouvoir mieux étudier après, très bien. On fait la yeshiva, on fait des fois une promenade, on va comme ça, on tourne un peu pour reprendre des forces pour pouvoir mieux étudier après. Tout à fait bien. On a besoin de ça. On n'est pas des machines à pouvoir travailler sans cesse. Au Japon, ils ont remarqué que dans les usines, il faut bosser, il faut du rendement, il faut de l'argent. Ils ont remarqué que lorsqu'ils donnaient 30 secondes par heure, ils arrêtaient les machines pour que les dames qui travaillent, elles baillent, elles s'étirent un peu comme ça, ils avaient un meilleur rendement. 30 secondes ou 1 minute par heure. On perd un 60e de notre production annuelle, tu comprends? Il faut y aller. Non, alors on laisse bailler un peu, ça vient. Ok, donc il faut s'arrêter aussi en tôt, hein. On va dormir, etc. Mais pas perdre sa vie quand on peut la gagner. Quand des fois s'arrêter un peu, ça nous fera gagner beaucoup plus, pas de problème. Mais perdre pour perdre, t'as pas de haram plus grand que ça. Haram, comme on entend du sang français, de dommage, de raté, de tristesse, de ça se tapeter dans les murs non-stop. On est ici pour gagner de l'éternité, de la divinité, de la vie éternelle, en mitzvot, en Torah, en faisant. Tu ne peux pas étudier, ok, fais du chesed, dis Tehillim, aide les gens, on peut faire ça, ça ne manque pas. Bourre ta journée de spiritualité. Ne me dis pas qu'on peut rentrer en routine. Quelqu'un qui est en routine, c'est un presque mort. Réveille-toi.
On a l'impression là, que c'est une routine, parce qu'on va quand même tous les matins là, après on va manger, après on va étudier.
Il y a, le Chazon Ish a dit, il y a un danger, l'habitude, c'est juste, alors, mais bouge-toi, comprends. Qu'est-ce que je fais maintenant? Du moussard, tu prends maintenant, tu te dis, ouais, qu'est-ce que je fais de ma vie, où j'en suis, comment je dois maintenant prendre chaque seconde de ma vie. Lis des choses là-dessus, c'est bourré de livres qui en parlent. Le temps, comment c'est important le temps? Il n'y a rien qui vaut plus que cela. On bifurque à la question de Jonathan.
Le chidouche c'est bien, mais avant d'arriver au stade de trouver des chidouchines...
J'ai répondu à la question. J'ai dit que chaque page nouvelle que tu fais dans ta vie, c'est un chidouche.
Oui, d'accord, mais justement, la question serait plutôt comment alors faire en sorte que cette page, ce soit un chidouche pour moi, parce que bon, là, j'ai beau voir à chaque fois tout le temps, j'ai un peu l'impression de... Il faut que je me lève, il faut que j'aille voir cette page, c'est pas...
Il faut comprendre.
C'est intéressant, c'est intéressant, mais c'est...
Ta question, elle est comme ça. Comment expliquer à un petit enfant de 2 ans que maintenant, quand il joue avec les diamants de son papa qui est bijoutier, il doit faire attention? Alors, il faut qu'il ait du dat. Du dat, c'est la conscience. Et c'est la Gemara, elle dit, celui qui a de la conscience, dat kanita mahasarta. Tu as acquis de la conscience, qu'est-ce qui te manque? Tu as tout. Quelqu'un qui a la conscience, il sait ce qui est juste, ce qui est important, ce qui est pas important. Dat hasarta, tu n'as pas acquis de la conscience, makanita, qu'est-ce que tu as acquis? Quelqu'un qui n'a pas acquis la conscience, il n'a rien acquis. Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Même il a des diamants, il a des choses, mais il ne sait pas quoi faire avec. Alors il va faire tout. Quelqu'un qui lui donne la vie, on lui donne Hachem, on lui donne la Torah, on lui donne d'être à la yeshiva, il n'a pas la conscience de ce qu'il a dans les mains. Je vois des élèves qui parlent Je ne vais pas leur dire, allez étudier, mais c'est tellement dommage, T'es là, à Yerushalayim, t'as la chance de pouvoir étudier, et c'est les plus belles années de ta vie quand tu es jeune, tout ça. Mais dévore. Pas de conscience. Et c'est moi, je leur dis, vas-y, ils vont me dire, oh, ça va, il devient lourd le Rav Shaya. Oh, ok, on fait un petit sourire, gentiment, et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Celui qui a la conscience, il a tout. Parce qu'il sait la valeur des choses. Celui qui a tout, mais n'a pas la conscience, il n'a rien. Parole de Chazal. Alors, comment faire maintenant, pendant les 3 minutes qui nous restent?
J'ai une cours particulier.
La réponse, elle est très simple. Elle est très simple.
C'est quoi la question, déjà?
La question est comment côtoyer un monde qui est tellement contraire au nôtre. Le danger est que de se faire influencer, elle est affaiblie dans notre vie juive par les agressions qu'il y a par l'extérieur. Le seul moyen de résister, c'est que notre vie juive soit tellement riche, tellement active, tellement qu'on n'est pas touché par cela. Quand quelqu'un est vide, alors tout l'extérieur peut rentrer en lui. Quand il est riche, il est plein, rien peut rentrer en lui.
Oui, mais des fois, la vie extérieure revient même au sein de notre foyer en France, par exemple. Les publicités, les choses comme ça.
C'est vrai, il faut faire attention. Chez moi, le journal, quand il y a un truc, ils nous mettent. C'est comme les dealers qui vont à la porte des écoles, petits enfants de 12-13 ans, leur donnent que, tiens, gratuitement un peu, un goutte, c'est bon, hein, ils filment comme ça, après, ils s'addictent, et après, il a des nouveaux clients. Ben, ils font le choix avec drogue qui est pire, ou je sais pas pire, en tout cas une drogue du même genre, les journaux. Une semaine gratuitement, vous recevez à la maison. Tu commences à lire. Mais c'est clair, 99% de ce qui est marqué, sans parler des interdits, lashon hara, médisant, c'est haine, mais c'est des stams, c'est rien, je tue des bêtises, même dans les journaux religieux, même des bêtises. Et tu viens addict, tu lis ton journal, tu perds maintenant ta vie. Moi, j'étais abonné à Contras. D'accord ? Passionnant.
C'est religieux.
C'est religieux, très passionnant. Je me suis désabonné. Pourquoi ? J'aurais dit, je commence à lire votre truc, il est passionnant. Je commence à 11h dans mon lit, parce que c'est pas la journée que je lis le Contras. À 11h dans mon lit, je prends. Je peux m'endormir au bout de 5 minutes quand j'ai un autre truc, je m'endors tout de suite quand je prends un truc de Torah, je m'endors vite. Mais là, c'est intéressant, d'accord ? Encore une page, 3h du matin, et voilà. Et le lendemain, t'es KO. Une fois, deux fois, trois fois, j'ai compris, désolé, j'enlève mon abonnement. Alors même, des fois c'est oui intéressant, mais il faut savoir aussi qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. On n'a pas le temps. Notre vie est trop courte pour qu'on puisse rater une seconde de mettre dans l'accessoire, même qu'il donne beaucoup, mais il donne moins que l'essentiel. On doit tout mettre dans l'essentiel pour Bezrat Hashem se brancher à l'essence de tout. Baruch Adonai, l'olam amen.